Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
À la mi-octobre de cette année, près de 4 ans après les attentats de Paris et de Saint-Denis, les 5 juges d'instruction en charge du dossier ont signifié que leur enquête était désormais achevée. Le procès du 13 novembre aura lieu en 2021. Il durera 6 mois. 14 personnes, dont 11 en détention provisoire, sont mises en examen. Pendant ce temps, le Fonds de garantie des victimes du terrorisme a indemnisé 2659 victimes. Parmi elles, 806 sont des proches de victimes, 1267 sont des blessés psychiques et 586 des blessés physiques. 107 millions d'euros ont été versés sur un total estimé à plus de 250 millions d'euros. Jusqu'à il y a 2 ans, 130 morts a été le chiffre officiel du 13 novembre. Mais le 19 décembre 2017, un rescapé du Bataclan, Guillaume Valette, s'est pendu dans l'hôpital psychiatrique où il séjournait depuis 1 mois et demi. Il avait 31 ans. À la suite de la fusillade, Guillaume avait pourtant repris son travail d'ingénieur chimiste et il n'avait pas manqué une seule journée, raconte sa mère. Les symptômes de son traumatisme sont apparus seulement en juillet 2017. Des crises d'angoisse, des images obsédantes, le sommeil qui disparaît, puis la panique totale, jusqu'au pire. Un rapport psychiatrique a déterminé précisément que son suicide était lié aux attentats et les juges d'instruction ont alors considéré que le jeune homme était le 131e mort, explique Le Parisien. Le 2 mai dernier, ses parents ont reçu un avis qui leur permet de se constituer partie civile au procès. C'est à cette souffrance-là que nous nous intéressons aujourd'hui, à la veille de cette 4e commémoration, à celle muette des traumatisés, des rescapés, à la façon dont ils ou elles ont vécu ou survécu ou pas. Sébastien et Estelle, deux façons de faire face, deux récits d'Alain Lefkovitch.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Seb Lascou, j'ai 40 ans maintenant et je vis à Paris dans le 18e arrondissement. J'étais présent au Bataclan, j'ai été blessé, j'ai eu le pied fracturé et plusieurs ligaments pétés. Donc dans un premier temps, j'étais arrêté d'abord pour le temps que ça se consolide. Hein, et puis en fait, j'étais aussi arrêté parce que j'étais pas du tout prêt psychologiquement à reprendre le travail. Donc j'étais présent avec un ami qui lui est décédé là-bas. Et le choc est tellement fort que... Avant de le digérer et de comprendre un peu, il se passe énormément de temps, même encore maintenant, on comprend pas tout. Et du coup, j'étais une espèce de légume posé dans le canapé à la maison et complètement vide. C'est-à-dire que j'avais l'impression moi, d'être vraiment un mort-vivant, finalement, après. Présent, sans être là, en fait. C'est-à-dire que j'étais vivant et en même temps, une partie de moi qui était morte et... Et même encore maintenant, je pense qu'il y a une partie de moi qui est restée là-bas. La première année, j'étais en hypervigilance sur tous les bruits, sur toutes les situations. Enfin, on sortait très peu, mais toutes les fois où je sortais, tous les bruits, même en étant à la maison. D'ailleurs, c'est là qu'on se rend compte que la ville est très très bruyante. Il y a énormément de bruits qui claquent, qui sont forts, qui sont soudains, qui moi me faisaient à chaque fois... sursauter ou qui me faisait craindre des détonations, ce genre de choses-là. Après, il y a le moment où je commençais vraiment à sortir un peu plus, mais j'étais vraiment dans l'hypervigilance de ce qui pouvait se passer autour des gens, de la foule, que j'évite en fait. Hein. Je prends plus le métro, je prends plus le RER, je me déplace mais essentiellement en bus, à pied et beaucoup en vélo. Alors après... J'avais des angoisses de mort imminente, c'est-à-dire que j'avais des douleurs qui étaient très omniprésentes, qui faisait que ça m'angoissait en me disant mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal de ressentir ces choses-là, et donc je suis en train de me dire je suis en train de mourir et je m'en rends même pas compte. Et le problème de ça, c'est que ces angoisses nourrissaient mes douleurs, qui nourrissaient mes angoisses, jusqu'à ce que je finisse par péter un câble et à partir aux urgences en pensant que j'étais en train de mourir. Et ça, j'ai fait au plus fort, je suis allé peut-être entre 15 et 20 fois aux urgences en pensant que j'étais en train de mourir. Donc j'ai fait beaucoup d'examens, du coup, dans l'ensemble, a priori, je vais bien. Heureusement, je suis marié à une femme formidable et qui s'est beaucoup occupée de moi, mais c'est elle qui a pris le devant, qui a dit « bon, ben, il faut absolument voir un psy, il faut faire... » Enfin, qui s'est occupée de tout ça. Et du coup, j'ai suivi, en fait, un petit peu. Au début, je ne sortais qu'une fois par semaine de la maison, uniquement pour faire les allers-retours pour aller voir le psy, justement. Après, au bout d'un mois, j'avais plus mon attelle. Il fallait que je fasse des sessions de kiné trois fois par semaine. Donc bah là, je passais d'un coup à quatre sorties par semaine entre le psy et le kiné. Et c'était les seules sorties que je faisais. Je me suis un peu gavé de nourriture. J'ai pris du poids. C'était soit je devenais gros, soit je devenais invisible et tout maigre. Mais c'était l'un ou l'autre, quoi. J'ai choisi de manger, moi. J'ai un rapport avec le temps maintenant qui est complètement distordu. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à mesurer le temps, enfin à me dire tiens, ça prend tant de temps, ou il est telle heure, tout ça. Ça, je me rends plus trop compte de ça. Même j'ai besoin de réfléchir, par exemple, à me dire tiens, là, on est quel jour ou quelle année même. Par exemple, quand pas longtemps après, du coup, à la fin de l'année, je suis allé chez mes parents. Quand je suis arrivé dans ce qui était ma chambre autrefois, donc une pièce que je connais extrêmement bien, pour y avoir grandi, j'avais l'impression d'arriver dans la vie de quelqu'un d'autre. Tout en reconnaissant le lieu, forcément. Et pendant longtemps, j'avais toujours l'impression d'être à côté. Comme si pas mal d'endroits, de choses que je connaissais, j'étais un observateur, en fait. Et que j'étais là, mais sans être là. Ça va un petit peu mieux maintenant. Ça va bientôt faire 4 ans, là. Mais il y a une année qui n'existe pas dans ma vie, en fait. Il s'est passé plein de choses, pourtant, pour plein de gens, mais moi, elle n'existe pas, quoi. L'année qui a suivi. Donc là, du coup, pour les proches qui, eux, n'y étaient pas, c'est aussi quelque chose de très compliqué. Et je pense qu'ils se prennent une charge émotionnelle qui est très forte. Il y a toutes les répercussions qu'il peut y avoir autour. Et la communication est très, très importante. Mais en vrai, dans ces moments-là, on n'a pas le recul pour forcément avoir cette communication-là avec l'autre. On est complètement perdu, on n'a pas forcément envie de parler, on n'a envie de rien. J'ai une amie effectivement qui s'est séparée de son compagnon. C'est forcément compliqué d'être avec quelqu'un qui n'a plus aucun intérêt pour rien du tout. Donc j'ai la chance d'avoir une femme formidable qui a essayé elle-même de comprendre des situations qu'elle ne comprenait pas ou des réactions que moi je pouvais avoir en posant des questions à sa psy par exemple, qui a lu des livres ou qui a pu lire d'autres témoignages aussi de victimes. Et des amis extrêmement présents. Ils passaient les week-ends à la maison et puis tous les soirs de la semaine, ils se sont relayés pour venir me voir pendant plusieurs mois. Mais je racontais, j'étais en boucle. En boucle sur ce qui s'était passé, sur ce que j'avais ressenti, comment je l'avais vécu. Je crois qu'ils essayaient de me changer les idées. Ils m'ont amené des livres, des films, bandes dessinées ou... Je crois que c'était rassurant pour moi de les avoir. Et ça, rien que ça, ça m'a fait du bien d'avoir cette présence-là. Quinze jours, trois semaines après les attentats, ma femme et ma meilleure amie m'ont acheté la Batmobile de Lego, qui est un énorme objet. J'ai fait ça en deux fois. Et ça a été mon vrai premier moment de calme quand j'ai monté la Batmobile, parce que c'est plein de petites pièces noires qui se ressemblent toutes. Et là, j'avais les mains occupées et l'esprit qui était assez concentré là-dessus. Et ça m'a fait un bien fou, ça, de faire quelque chose là, sans penser à rien d'autre que ce que j'étais en train de faire. Et c'est, ça, c'était les moments très apaisants, en fait. Et le vélo aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, comme c'était un problème de les transports en commun, le bus, quand il y avait trop de monde, je me suis dit, bon, ben, j'habite dans le 18e, je travaille dans le 11e. À pied, je l'ai fait une fois ou deux, c'est un peu long. Surtout que mon pied me faisait mal. Et en fait, ça fait moins mal de faire du vélo que de marcher. Ça m'a fait énormément de bien. Parce que faire du vélo dans Paris, c'est pas simple. Il faut rester concentré. Et c'est un moment, en fait, qui m'a permis de me concentrer physiquement et psychologiquement. C'est-à-dire que physiquement, mon corps était pris par l'effort physique et par les sensations que je pouvais ressentir de faire du vélo et puis de, enfin, tout le fait de glisser sur la route. D'ailleurs, c'était un des premiers plaisirs de nouveau que j'ai pu ressentir, la sensation de rouler. Ça, c'était très agréable. Et le fait d'être ultra concentré sur ma route, parce qu'il y a plein d'obstacles, parce qu'il faut faire attention aux voitures, aux scooters, aux piétons, s'arrêter au feu, tout ça. Je pense que ça m'a permis de me réapproprier mon corps d'une autre façon, en fait. Donc du coup, je me suis acheté un vélo. Je voulais un beau vélo, j'avais envie de me faire plaisir. Ça, c'est quelque chose depuis où maintenant j'ai envie de... Quand je m'achète quelque chose, j'ai envie d'avoir quelque chose qui soit beau, en tout cas qui me plaise, et quelque chose avec de la couleur. En fait, avant, j'étais plutôt dans mes habits, j'avais des choses qui étaient peut-être plutôt sombres. Enfin, j'ai jamais trop osé la couleur, et là, j'ai envie d'avoir de la couleur. Et voilà, j'ai un vélo qui est blanc et rouge. Et j'ai pas mal de chaussures jaunes, d'ailleurs, depuis. Du jaune qui flash, et j'ai envie de ça. J'ai envie de mettre de la couleur dans ma vie, en fait. Quand j'ai repris mon travail, je l'ai repris au bout de 6 mois, mais bon, c'était des petites journées, c'est-à-dire que j'arrivais un peu comme je voulais, je pouvais repartir un peu comme je voulais. Ça me demandait beaucoup d'énergie pour arriver à me concentrer sur mon travail, sur des choses qui étaient toutes simples, que je faisais presque les yeux fermés, que j'arrivais quasiment plus à faire, où ça me prenait un temps fou pour essayer de me souvenir comment je faisais, qu'est-ce qu'il fallait faire, et puis... Et puis mon attention était complètement ailleurs, enfin volatile, donc du coup je perdais un temps fou à faire les choses où je faisais des conneries tout simplement. Et puis en fait surtout c'était à quoi bon quoi, qu'est-ce que je fais là? Et du coup j'ai quitté mon emploi il y a un an déjà, et j'ai commencé une formation qui a suivi en novembre, avec l'idée vraiment de prendre du temps pour me poser, réfléchir un petit peu et avoir vraiment cette coupure-là. Quand je regarde les photos d'avant, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est lointain. Ouais. C'est comme si on avait vécu une autre vie ou... On est quelqu'un d'autre. Il y a vraiment l'avant et l'après. C'est un peu comme si on voit les choses d'une certaine façon et en fait, quand on fait un pas de côté, on les voit d'une façon différente et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a fait ce pas de côté. Il y a une partie de nous qui est effectivement le même, mais on voit les choses complètement différemment. Ouais. Après, toutes les sensations physiques que je peux avoir sont importantes et surtout sont décuplées. C'est-à-dire que je me rends compte que je suis en train de manger cette clémentine et la sensation que ça me procure, c'est quelque chose de fort, de sentir effectivement le quartier de la clémentine exploser, le jus, le sucre. Et c'est des sensations qui sont vraiment très fortes. Et c'est plein de ces petits moments-là où du coup je m'extrais du reste et j'aime bien ça et je me rends compte aussi par moments en fait que je peux rester bloqué sur un truc et prendre le temps de regarder ce qui se passe, observer la vie dans un parc et regarder cet oiseau qui essaye d'attraper un truc dans l'herbe ou tout ce qui fait que en fait il se passe plein de choses autour de nous et dont on fait pas forcément attention et qui sont au final très importants. Et cet été par exemple il y avait Pendant mes vacances, j'étais en Creuse et puis on a vu des arbres qui avaient un tronc complètement dingue. C'est dans une espèce de parc. Et j'avais un besoin irrépressible d'aller toucher l'écorce qui était toute lisse et qui avait une couleur cuivrée qui était très agréable au toucher, quoi. Donc il y a des moments où ouais, je vois quelque chose et ça m'interpelle. Mais j'ai besoin d'aller voir et d'avoir cette connexion-là, en fait. Et je pense que d'avoir cette connexion-là, en fait, ça me ramène à quelque chose de réel et quelque part, ça me permet de me sentir vivant.
Moi, c'est Estelle. J'ai 31 ans, j'habite en région parisienne dans les Yvelines. Je suis assistante d'éducation dans un lycée et apprentie tatoueuse à côté. Pendant les premiers mois, ça a été déjà très très dur. Je suis pas sortie pendant 6 mois. Je suis restée dans le cocon familial. Je me suis beaucoup raccrochée à ma maman. Les premiers temps, je dors pas bien, je fais des cauchemars, je me réveille la nuit, je fais des insomnies. Du coup, pendant 6 mois, je me recroqueville un peu dans l'univers des jeux vidéo parce que j'aimais déjà ça. Du coup, des fois, je me lève parce que 3h du matin, tout le monde dort chez moi. Donc, je vais jouer en ligne avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Après, ça va être... je passe du temps avec ma maman parce que ma mère, elle était en arrêt maladie, donc on est toutes les deux à la maison. On va se balader à côté de la maison dans la forêt. Le temps, en fait, c'est long, mais en même temps, je veux pas faire autre chose que d'aller ailleurs, en fait. Du coup, je m'occupe comme je peux, dormir, cuisiner. Je m'en souviens que ma mère m'avait acheté des carnets de coloriage, un peu thérapeutiques. Du coup, je passe mon temps à colorier. Je vois pas beaucoup de monde parce que du coup, tous mes amis habitent pas forcément à côté de chez moi, donc on me demande de venir me voir sur Paris, mais moi, je vais pas aller sur Paris, c'est pas possible. Je psychote beaucoup, en fait, quand je suis dans Paris, dès que j'entendais une sirène de police, pompier, je me demande qu'est-ce qui se passe à Paris, est-ce que quelqu'un va tirer. Et en fait, comme ça s'est passé à Paris, à Paris, j'ai peur. Je me dis que ça va forcément répéter à Paris un jour, quoi. Du coup, c'était impossible de venir à Paris, c'était très compliqué, quoi. Et rien que de prendre les transports, ça a été angoissant. Dès que je sortais du RER, je marchais très très vite parce que j'avais peur. Parce que quand j'étais dans les transports et qu'il y avait du monde, ça me rappelait les attentats. Parce qu'on était tous affolés, ça a fait un mouvement de foule. Donc la foule me fait peur, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. À Saint-Lazare, je suis sortie du train et j'ai été prise d'une émotion très forte. Une tétanie, je ne pouvais même plus reprendre le métro. Je me suis mise de côté parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et du coup, je m'en souviens, il y a un moment, il y avait des manifs ou je ne sais plus quoi. Donc dehors, je sentais que derrière, c'était le bazar dehors et tout. Et je me suis cachée dans la gare. Je me suis accroupie par terre. Heureusement qu'il y a une dame qui m'a vue en pleurs. Elle me dit, vous ne pouvez pas rester comme ça, mademoiselle et tout. Vous voulez que je vous aide à faire quelque chose? Et je lui ai dit, il faut que j'appelle quelqu'un. Et j'ai appelé un ami, justement, des attentats, qui est venu me chercher à scooter. Des fois, je pouvais rester 2-3 heures dans la gare Saint-Lazare. J'appelais ma maman, j'appelais des gens pour me calmer. Des fois, même, je faisais demi-tour, en fait. Et quand je faisais demi-tour, ça passait. Et un jour, j'ai eu un déclic, je me dis, non, ils ne m'auront pas. J'ai envie de prendre un boulot à Paris pour me dire que je peux travailler à Paris. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai retrouvé un boulot à Paris, dans un collège, avec beaucoup moins de crises d'angoisse. Et ça s'est espacé, voire quasiment plus. Et j'ai réussi à y aller tous les jours. Donc ma mère, ça a été un soutien, un gros soutien quand même, moral. Je lui parlais de beaucoup, je lui confiais mes peurs. Elle m'a apaisée aussi beaucoup, c'est une maman quand même, donc faut pas l'oublier. Après, autour de moi, mon père l'a pas su tout de suite, parce que mes parents étaient séparés. Donc j'en ai pas parlé tout de suite, alors sur le coup, quand je lui en ai parlé, il a été en colère. Mais qu'est-ce que tu faisais là? Il comprenait pas non plus. Et maintenant, à l'heure actuelle, il est beaucoup dans le déni. Quand j'en parle, c'est un sujet tabou entre nous. On n'en parle pas du tout. Quand je vais pas bien, il peut pas comprendre que ça peut être encore des séquelles des attentats. Il comprend pas pour lui comment on peut être pas encore bien. Donc, puis c'est un papa, il a envie de voir sa fille bien. Donc, il a pas la même relation que j'ai eu avec ma maman. Du coup, quand je suis pas bien, je sais que lui, je peux pas trop lui en parler parce qu'il a un petit peu du mal avec ça. Il y a de temps en temps où il a eu des mots quand même en me disant, écoute, la vie, c'est la nature. La vie, c'est le lever du soleil, c'est le coucher du soleil, c'est les oiseaux que t'entends le matin. Ça, c'est la vie, quoi. J'ai trouvé ça beau, il sort jamais des phrases comme ça, mon papa. Et du coup, maintenant, je pense beaucoup à ce qu'il dit. Et bah, quand je vais pas bien et que mon cerveau repense un peu à ce qui s'est passé, que je me sens un peu seule finalement, et bah, je repense à ça et ça, ça me fait du bien quand même. Avec le temps, j'ai déménagé, j'ai pris mon appart toute seule, c'était une première, et je me suis reconstruite petit à petit, j'ai passé par beaucoup d'étapes. J'ai vu des psychiatres, et ils m'ont prescrit des médicaments, donc j'ai eu des anxiolytiques, et en fait, quand j'ai pris les médicaments, j'étais vraiment un zombie, quoi. Je passais mon temps sur mon canapé, je dormais tout le temps, mon cerveau était anesthésié, quoi, total. Quand j'allais au boulot avec les médicaments, je dormais dans le train, et... J'étais mais vraiment dans les vapes et c'était pas possible de gérer mon boulot en étant dans cet état-là. Du coup, j'ai fait le choix moi-même d'arrêter les médicaments du jour au lendemain. Donc j'ai préféré me battre autrement qu'avec les médicaments. J'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de l'art thérapie, l'acupuncture, l'hypnose et j'en passe. J'en passe. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, bah, ça va beaucoup mieux. Je me rends compte qu'il y a une évolution en fait énorme. Je pense que ça a été les montagnes russes et que là ça commence à être sur une belle pente un peu tranquille quoi. J'ai réussi à revoir un concert il y a pas longtemps. J'ai plus peur de quand j'entends les pompiers. Quand je parle des attentats, j'ai quasiment plus d'émotion. Presque comme si c'était il y a 10 ans quoi. Quand je suis dans Paris, je suis pas dans l'angoisse en fait. De toute façon, je me dis on peut pas calculer ce qui va se passer donc. Et j'ai réussi aussi à retourner dans le café où j'étais le soir même. Ça a été une page qui s'est tournée quand j'ai réussi à retourner dans ce bar, à la même place quasiment. J'ai montré à mon ami, c'est là où j'étais ce soir-là. Et là, je me suis dit, waouh, c'est des années que je n'étais pas revenue sur le lieu ce soir-là. Et bah, finalement, je n'ai pas eu d'angoisse, j'étais animée dans les rues. Et j'étais étonnée de moi. J'ai fait, waouh, là, c'est une victoire, une belle victoire. Je me lance des défis pour voir si je suis bien maintenant. Ça a mis, je me rends pas compte, peut-être 2-3 ans pour que ça passe quoi. Je dis pas que ça va à 100%, j'ai des moments où en fait maintenant je suis beaucoup moins patiente en fait parce que ben, on sait que la vie elle est très courte. Du coup ça c'est compliqué à vivre parce que des fois quand j'ai envie de faire quelque chose il faut que ça aille vite parce que j'ai pas le temps en fait dans ma vie. J'ai envie de tout faire, j'explose tout le temps, j'ai envie de faire j'ai envie de reprendre la photo parce que je faisais de la photo une époque et en même temps bah, une journée c'est 24 heures et j'ai pas le temps quoi. Donc je suis un peu débordée avec ça et des fois ça peut être un peu aussi bien mais pas bien parce que du coup je le vis très mal quand il y a des choses que j'arrive pas à faire, quand il y a des choses qui prennent trop de temps. Des fois c'est compliqué à vivre mais ça m'a beaucoup changé aussi en termes de maturité. J'ai pris conscience de plein de choses. Je sais pas, je me sens plus ouverte d'esprit, plus tolérante et je profite beaucoup du quotidien dans tout. Rien que le boire un café quand mon père vient le matin, dû acheter les croissants, et ben on en profite parce qu'on sait pas si demain on va pouvoir le faire en fait. Ça m'a beaucoup changé. Je me dis que j'ai vu frôler la mort. Donc ouais, on profite, mais après je regrette pas. Si je vais faire marche arrière et que je devais être dedans, je choisirais d'être dedans même si j'ai eu très peur. Je pense que ça a quand même ouvert des choses que je regrette pas. Quoi. Les gens autour de moi, ils me trouvent très optimiste à chaque fois. Ils me disent, mais comment tu fais pour ressortir? Comment tu fais pour vivre? Comment... Mes amis sont admiratifs de ma façon de voir la vie. En fait. Ils me disent, mais t'es un rayon de soleil. Tu arrives à être optimiste dans tout. Donc quand il y a un ami qui va pas bien, j'essaie d'être là. Mais c'est pas grave, la vie, il y a plein de choses jolies à faire. Et ouais, je suis comme ça. Je me dis qu'il y a tellement plus grave que des petites disputes... Entre je vois dans les transports les gens qui se disputent pour une place de train. Donc ça m'a changé beaucoup. J'aime bien pouvoir aider les gens aussi, ça c'est un truc que j'aime beaucoup plus, j'ai besoin d'être utile. Ça c'est quelque chose auprès des gens, j'ai besoin. Alors qu'avant j'étais pas comme ça, j'étais très très timide. Ça c'est. Ouais, ça m'a beaucoup changé. La timidité envers les gens, c'est. Il n'y en a plus quoi. Vers chez moi, j'ai des. Personnes sans abri qui sont toujours au même endroit, sur un même banc. Et de temps en temps, quand je peux, parce que je ne peux pas toujours, mais je leur dis bonjour, juste leur faire un sourire, de partager un petit peu de discussion avec eux. Des fois, je vais leur dépanner une cigarette. Une fois, j'avais un peu d'argent de côté, j'ai fait des courses et je leur ai acheté un paquet de chips, des olives, du pain, du fromage. Et j'ai vu dans leurs yeux... comme c'était Noël en fait, c'était hyper content. Et en fait, ça me raccroche avec les relations entre humains, comme quoi on peut être bon entre nous finalement. Ça, c'est un truc que je travaille beaucoup parce que finalement, après les attentats, je me suis dit, mais comment un être humain peut faire une chose aussi horrible? Maintenant, j'ai besoin que entre les contacts, ça soit bien. Je déteste voir des gens se disputer, je déteste voir des gens se frapper dessus. J'aimais pas la souffrance animale aussi. Ben, je l'aime encore moins, en fait, maintenant. Je tolère plus du tout ce qui est violence. Ça, c'est quelque chose que je peux plus maintenant, en tout cas. Depuis les attentats, je regarde plus du tout la télé. J'ai coupé parce que c'était compliqué de revoir ces images que je voulais pas voir. Et pour me protéger, moi, et pas le vivre mal, j'ai souhaité ne plus brancher ma télé et me couper de tout ce qui se passe. Mon père, il comprend pas ce choix. Il me dit, mais c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde. Tu achètes même pas le journal, rien. J'y vais, non, mais là, c'est une question de me protéger, moi, parce que, hélas, dès que j'allume la télé, je sais que c'est que des mauvaises nouvelles, qu'il y a que des choses mauvaises. Je sais pas, c'est une question, moi, de me protéger, en fait. Là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, depuis bien un an, j'aime tout. Là, chaque saison, j'adore. Là, c'est l'automne en ce moment. Et là, je rêve d'une chose depuis quelques jours, c'est d'aller ramasser des châtaignes, aller les faire chauffer. Cet été, je suis partie faire du camping dans la nature et se réveiller et ouvrir sa tente et voir le soleil se lever, entendre les oiseaux, tout. Même là, juste partager un moment avec des amis. C'est vraiment les plaisirs les plus simples, mais vraiment les plus minimes du quotidien. Je vais les apprécier de façon, en fait. Il n'y a pas besoin de grand-chose, parfois juste pour sentir en vie, en fait. C'est juste, même là, tout à l'heure, je me lève, je suis dans le train, et juste de voir les gens, tu vois, que ça vit, en fait, et que... Parce qu'après les attentats, quand même, pendant un temps, j'ai ressenti comme si il y a eu une fin du monde, en fait. Je voyais dans les rues de Paris, à la télé, personne sortait. Là, je vois les gens qui s'animent. Bon, en même temps, c'est la vie, en fait. Et ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime trop.
C'était les attentats du 13 novembre, Faire face, un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par Emmanuel Geoffroy. L'attaché d'émission, c'est Aurélie Marsay. Merci à Sébastien et Estelle, également aux administrateurs de Life for Paris et à Caroline Langlade.